Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence donc, qui a pour thème le métier des ressources humaines. Donc, je vais vous faire d'abord un bref rappel historique de la fonction, de son évolution dans le temps. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'importance accordée par les entreprises aux ressources humaines, c'est quelque chose de relativement récent. La fonction a à peu près émergé autour de 1850 et de 1950, donc en un siècle. C'est une période à cette époque-là d'industrialisation naissante, avec une main-d'œuvre très nombreuse et qui n'est pas spécialisée. Donc c'est une période qui va être bouleversée par le taylorisme, donc de l'ingénieur américain Taylor, qui a fondé un modèle économique qui est basé justement sur la recherche de l'efficacité optimum pour les salariés. Et donc ce modèle-là va bouleverser les donnes en matière d'industrie. Donc ensuite, au début du XXe siècle, la taille des entreprises commence à augmenter. Et puis il y a un certain nombre de notions comme le recrutement, le service, les services du personnel, la formation, la syndicalisation, la recherche de performance, les problèmes de compétitivité des salariés, ces fonctions-là commencent à être mises à l'ordre du jour pour les entreprises. On peut par exemple voir une date, 1934, donc c'est l'époque où la première association professionnelle en ressources humaines est créée. Elle est créée au Québec. Ensuite, l'évolution continue avec en 1936 où la législation sociale commence à vraiment se développer. Et donc la discipline va connaître un réel essor entre 1950 et 1990. Donc c'est une période où la taille des entreprises continue d'augmenter et leur organisation se complexifie avec des montages, que ce soit financiers et économiques, qui sont de plus en plus fréquents. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une période également de progrès technologique qui est fort. Et où justement les progrès technologiques rentrent en compte évidemment dans la formation des gens, etc. Et donc c'est ensuite il y a une crise économique, donc celle qu'on a connue depuis quelques années, qui a légitimé en fait la fonction RH, qui a fait que cette fonction s'est professionnalisée au cours de la fin du XXe siècle. Et puis justement de plus en plus, et c'est le cas aujourd'hui de plus en plus, la fonction RH est inclue d'une part dans la stratégie de l'entreprise et participe pleinement à la création de valeur de l'entreprise. Donc c'est dans ce contexte que va se dérouler justement cette conférence. Dans une première partie, on va vous dresser un état des lieux des différentes formations que proposent les RH, en prenant l'optique d'une personne, donc un des intervenants qui va vous parler plutôt de l'optique agence, parce qu'il faut savoir que le métier des ressources humaines, il y a des agences spécialisées du fait souvent de l'externalisation des services, et une personne, Mme Deschelin, qui va parler justement des métiers de ressources humaines dans l'entreprise. Et donc dans une deuxième partie, on verra justement que c'est des métiers évolutifs, et que du fait des progrès technologiques, du contexte économique et de plein de choses, c'est des métiers qui sont appelés à se développer d'une part et à évoluer. Donc on va parler dans une deuxième partie des nouveaux métiers qui peuvent se créer, et des nouvelles missions qui peuvent être intégrées au quotidien des professions actuelles. Donc tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter, donc nos deux intervenants, M. Landois-Fabrice et Mlle Chelin.
Je suis Nathalie Chemin, donc enchantée de faire vos connaissances, en tout cas ce soir. Je suis aujourd'hui RH dans un grand groupe, en fait, un grand groupe électronique. Donc j'exerce mon métier depuis 15 ans dans les ressources humaines, à tout niveau. Donc j'ai démarré comme assistante, chargée de recrutement, adjointe et aujourd'hui RRH. Donc en fait, je suis généraliste sur une population d'à peu près 400 personnes sur Brest. Aujourd'hui, je vous propose. Donc, j'ai suivi tout bonnement, effectivement, le plan qui m'avait été indiqué. Donc, en sachant que j'ai beaucoup plus, en fait, un angle de vue industriel, parce que ça fait quand même 15 ans que je suis dans l'industrie, et un poste, effectivement, généraliste, tant au niveau des cadres que non-cadres. Donc, je suis quand même assez formatée, entre guillemets, hein, excusez-moi, assez industrielle, quand même. Donc je saurais moins vous parler des assurances, de la banque ou des métiers de tertiaire qui également offrent en tout cas des opportunités en ressources humaines. Là, mon discours sera quand même assez orienté. Mais je compte sur mon collègue là pour corriger mes propos.
Compléter,
voilà.
Ok. Pour ma part, vous avez déjà connu Fabrice Landois, je suis responsable du centre APEC de Brest. Donc l'APEC est une association de loi 1901 pour aider la gestion des carrières des cadres et puis pour aider les entreprises à trouver du personnel. Donc notre mission, c'est la mise en relation entre les entreprises et les cadres, qu'ils soient en activité ou demandant d'emploi. Donc effectivement, moi je suis plutôt généraliste, ça fait 14 ans maintenant que je suis consultant. Donc on apprend tous les jours dans ce métier-là. On est au contact des RH ou des personnes des ressources humaines dans l'entreprise pour apporter des solutions. Et puis au contact des cadres pour les aider à se projeter dans le futur, à s'adapter à l'environnement, et surtout à se rendre employable et maintenir leur employabilité tout au long de leur vie professionnelle. Donc on va se compléter sur la partie généraliste en dehors de l'industrie, mais moi j'essaierai de faire un complément sur les autres métiers, les autres secteurs d'activité. Voilà.
Parfait. Alors en introduction, ressources humaines, RH, c'est très à la mode, ça a été très à la mode, un petit peu comme le marketing, tout le monde veut faire du marketing, des RH, ça fait très bien sur la carte de visite en général. Bon, il ne faut pas se leurrer, GRH, c'est pas de la communication, c'est pas du social, c'est pas non plus être dans les relations publiques, c'est vraiment un métier où en fait le profil a déjà évolué, si je puis dire, puisqu'effectivement avant on était beaucoup plus sur des profils de psychologues ou sur des gens plutôt qui venaient de l'armée et des fonctions quand même très organisées et très carrées au démarrage, c'est par là que ça a été créé. Aujourd'hui on est plus sur des gens quand même avec un profil extrêmement gestionnaire, qui sont aussi extrêmement adaptables par rapport aux missions qu'on va leur confier, et vous allez voir les missions changent énormément. Donc quand je demande à un stagiaire ou un assistant ou un futur collaborateur, mais pourquoi vous voulez venir travailler dans les ressources humaines, qu'est-ce qui a fait que et quelles ont été vos motivations, entre nous ça va être une des premières questions qu'on va vous poser, vous débutants. Quand la personne me répond, c'est en fait un métier de relation où on voit des gens, on communique, grosso modo, c'est très agréable et on est là pour éventuellement résoudre des problématiques ou les problèmes des gens. Attention, pas attention, on est vraiment des gestionnaires. On demande aujourd'hui à ce que nous faisions du management des ressources humaines et de vous à moi, quand vous venez nous voir en général, c'est qu'il y a un gros problème à résoudre du changement des mutations industrielles et de la communication, d'un temps plutôt de la communication de crise, si je peux me permettre. Donc il faut quand même faire très attention et je pense qu'en fait, mine de rien, il faut quand même être assez musclé aujourd'hui pour aller de ressources humaines, et quand vous allez voir les chantiers qui vous attendent, ça ne va pas être aussi simple que ça.
Je viens de parler là effectivement de cette partie ressources humaines qui est c'est un métier de technicien. C'est un métier de technicien, on le verra tout à l'heure dans les différents métiers. Chaque métier a ses propres spécificités. Dans les métiers de ressources humaines, il y en a un certain nombre, qui vont de la gestion pure des ressources humaines jusqu'à la communication interne ressources humaines. Mais un métier de technicien, métier pointu, pour ceux qui ont envie de s'orienter vers cette filière l'année prochaine, effectivement, essayez bien de comprendre, de déterminer quelles sont vos motivations pour ça. C'est aussi important que d'être un ingénieur, et il y a des ingénieurs en ressources humaines, il y a des chercheurs en ressources humaines, parce que c'est un métier extrêmement pointu et qui demande de s'adapter. On parlait tout à l'heure de méthode, vous avez dû entendre parler de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, GPEC, qui était une étape de la gestion des ressources humaines. Effectivement, maintenant on est plus sur du management, on est sur du management des compétences, du management par les compétences. Donc on travaille sur de l'impalpable. La compétence, qu'est-ce que c'est? Ça se mesure, oui, mais par quel outil, par quel moyen? Et donc on est obligé. On est, en termes de ressources humaines, amené à permettre à l'entreprise, avec la ressource humaine, à lui permettre d'atteindre ses objectifs stratégiques d'entreprise. Donc on est vraiment des gestionnaires des ressources humaines.
Alors, gestionnaire des ressources humaines, ça veut tout dire et rien dire en même temps. C'est vrai qu'on est plutôt sur une logique qualitative. On était, si je puis dire, parce qu'aujourd'hui, on nous demande d'être créateur de valeur, effectivement, et cette création de valeur, faut que quelque part, on en fasse d'une part le marketing interne, c'est-à-dire qu'on communique autour de nos succès, mais également, on nous demande des mesures, des indicateurs de mesure. Donc en fait, aujourd'hui, notre fonction, elle n'est plus que virtuelle, que qualitative, elle est quantitative et qualitative, très clairement. Par rapport à ça, justement, et d'où l'aspect quand même gestionnaire, carré, organisé, communicant en interne, vous allez voir que la place est également relativement stratégique. Enfin, ceci dit, ça dépend de la structure. Mais très clairement, nous sommes aujourd'hui entre l'économique et le social. Donc en fait, c'est ce que j'avais dit sur la... Voilà. On est vraiment le conseiller, le support, l'acteur du changement. On est là en anticipation et en fait, on va travailler sur quoi? Sur l'humain. Puisque dans ressources humaines, il y a l'aspect R qui est ressources. Donc on est vraiment sur une notion de capital humain. Donc on est vraiment dans une logique vraiment plutôt économique. Et l'humain, vous le retrouvez au niveau bien sûr de l'homme, des compétences et des acteurs en tout cas du pivot de l'entreprise. Hein. Donc ça c'est pas si facile que ça. La place est délicate mais sûrement mais captivante en fait à trouver.
Une place entre marteau et l'enclume, je l'ai vu dans une des diapos.
Quelquefois. Non, mais ça, c'est entre la direction, ouais. Souvent, et les syndicats. Mais,
cette notion, effectivement, où on doit servir les uns et servir les autres, et les intérêts ne sont pas forcément les mêmes. Donc, ça, c'est important.
Alors, la mission, c'est ce que j'ai indiqué ici, c'est une mission, on est vraiment dans une mission de garant de l'équité. Hein? Alors, quelquefois, on joue sur les mots, mais. Quelquefois, il est dit qu'on est garant de l'égalité. Alors, bon, faire très attention, on est vraiment dans une logique d'équité. Aujourd'hui, donc, équité, gestion et également donc, gestion du parcours professionnel. Ça, c'est vraiment... on a une panoplie d'outils à notre disposition, formation, recrutement, GPSC, etc. Comment utiliser au mieux ces outils et faire en sorte en fait que nous accompagnions les hommes au sein de l'entreprise à travers des parcours professionnels adéquats et surtout simples. Alors les métiers des ressources humaines, on va les voir un petit peu plus de manière un peu plus affinée et dans un premier temps les missions. Alors, première mission, c'est administrer, gérer le pôle frais de personnel, hein, qui est au niveau comptable quelque chose d'assez de très lourd, hein, frais de personnel, c'est dans le plan comptable souvent avec les immobilisations le poids le plus lourd dans un centre de profit qu'est l'entreprise. Investi en formation, le mot est choisi, hein, la formation est réellement un investissement. On cherche aujourd'hui à évaluer à chaud, à froid et le retour, et évalue l'ensemble des effectifs. Donc c'est ce que j'ai indiqué, on est vraiment dans une adéquation qualitative et quantitative entre les ressources et les besoins de l'entreprise. Donc la politique salariale et le développement des ressources humaines, on peut le résumer ainsi, c'est vraiment la valorisation des compétences et elle contribue ainsi à une notion quand même stratégique de l'entreprise. Alors notre première mission, et c'était vraiment à l'origine et vraiment la quintessence de notre mission, c'était la réglementation. Et c'est pour ça qu'on nous craint quelque part. On est vraiment là pour vraiment mettre en œuvre et faire respecter surtout le code du travail et le droit social. Hein. Droit social qui est extrêmement complexe. Par rapport à ça, je pense que les juristes et les hommes des ressources humaines, je pense qu'effectivement... Ils n'auront pas trop. C'est tellement le droit français est tellement complexe qu'en fait il faut vraiment des professionnels du droit pour pouvoir les interpréter et les utiliser. Donc par rapport à ça, je pense qu'on aura toujours de toute façon un métier dans les mains qui assure de toute façon par notre technicité justement un job le lendemain. C'est mal dit, mais j'espère que vous me comprendrez. C'est vrai que c'est tellement complexe que bon, et ça devient de plus en plus. Donc voilà l'émission. Oh, et la page suivante. Voilà. Mutation du travail et management des ressources humaines. Donc en fait, on se positionne plutôt sur une logique partenaire de demain dans les entreprises. Et ce, il me semble, dans toutes les activités, peut-être plus de manière plus accentuée dans l'industrie, mais également la grande distribution et puis tout ce qui est commercial. Parce qu'aujourd'hui, les marges sont un petit peu deviennent plus réduites. Dans les services, je pense que ça va rapidement venir également. Donc le type de management aussi, le type de management dans les entreprises font que la fonction RH va être extrêmement différente selon les entreprises. Hein. Donc ça, en termes de questionnement, peut-être, lorsque vous vous présentez à un poste, c'est demander le type de management qu'il y a dans l'entreprise et le type de culture donc au niveau de cette entreprise-là aussi. quelle est la stratégie de l'entreprise et regarder le positionnement justement de la place de la politique des ressources humaines dans cette stratégie d'entreprise. Est-ce que c'est des dirigeants qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir être moteur dans votre nouvelle fonction et créer vraiment quelque chose de dynamique? Là aussi, qu'est-ce qui vous attend en termes d'anticipation, en termes d'aléas, en termes de charges, en termes de population? Est-ce que c'est une population vieillissante? Auquel cas, en termes de gestion prévisionnelle, quels sont les enjeux et qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Là aussi, le mot à la mode lors de l'aménagement du temps de travail, c'était flexibilité. Ce mot-là, il est toujours, on l'a utilisé et trop utilisé, mais grosso modo, flexibilité, employabilité, on est toujours un peu sur les mêmes feux clignotants. Donc voilà, je pense que management des ressources humaines, c'est vraiment ça qui nous attend prochainement en termes de mission. C'est une des grosses missions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter? Non. Ça vous va?
Oui.
Domaine clé des RH, donc je crois que c'est le dernier domaine, c'est vraiment le droit. Enfin, on en est. Enfin, bon, je ne dirai pas plus loin, mais c'est extrêmement complexe. Enfin, c'est spécifique à la France. Maintenant, le droit européen prend le pas sur le droit français. Hein, vous le savez, au niveau déjà, d'une part, ça fait comme 5-6 ans. Au niveau du travail de nuit des femmes, donc il a pris le pas. Et aujourd'hui, il est en train de prendre de plus en plus le pas sur d'autres domaines clés des RH également. L'audit social, c'est justement nos indicateurs clés au niveau de l'équité. Hein. L'audit social, c'est regarder justement si tous les clignotants sont ouverts, tant au niveau légal qu'au niveau sécurité, qu'au niveau conditions et conditions du travail, mais également conditions d'embauche.
Aussi bien quantitatif qu'en qualitatif.
Également, oui. Alors, le grand chantier en ce moment, c'est égalité homme-femme. Bon. Donc, pour 2010, tout doit être d'équerre. Vous savez qu'en fait, il y a un bilan égalité homme-femme qui existe, mais il est de plus en plus scruté. Donc voilà, vous le savez, et ça, c'est écrit partout. Hein. Il y a quand même quelque chose qui... Il y a des rémunérations à poste égal, pas traitement égal, justement, entre des hommes et des femmes. On est de l'ordre quand même entre 10 à 25%, 20%. Voilà.
C'est égal, la formation égale, 10-20%. En sachant qu'on peut même élargir ce domaine de l'égalité des hommes-femmes à tout ce qui va être la discrimination. Les handicapés, la réglementation sur l'emploi des handicapés et toute discrimination. Je vous informe, vous le savez peut-être, il y a un ministère qui vient de se mettre en place, ou plutôt un service dans un ministère qui vient de se mettre, qui s'appelle la HALDE. Donc, il fait de la veille anti-discrimination sur tous les sujets en entreprise, sur la communication RH, sur tous les domaines des ressources humaines. C'est notre... nous, en tout cas, on est très vigilants vu qu'ils nous scrutent, on diffuse beaucoup d'offres. On est dans le collimateur, en veille, pour voir si on est bien dans les critères discriminants ou positifs. La discrimination, de toute façon, c'est forcément pour éliminer des gens, mais pour voir si on est bien dans les critères légaux de discrimination. Donc ça va faire partie du métier des ressources humaines dans l'avenir, tout ce qui va être la discrimination homme-femme, les rémunérations, l'intégration des personnels handicapés, tous ces éléments-là sont très 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 importants.
Sociologie du travail, donc là on est beaucoup plus sur l'implication de l'homme au travail, la culture d'entreprise, les valeurs. Les valeurs d'entreprise et puis les relations également, les relations professionnelles, politiques, etc. Ça, à mon avis, c'est les chantiers de l'ombre, quelque part. Je pense qu'en fait, c'est fondamental et pourtant, quelque part, on n'en parle pas. Quelque part, tacitement, ça doit faire partie des choses. Et souvent, c'est la communication, justement, qui est un petit peu sous son aile, ce travail un peu sociologique des organisations, hein, pour le savoir. Mais bon, je pense implication au travail, ça va devenir... et motivation au travail, là aujourd'hui où il y a eu quand même vie privée, vie professionnelle, il y a les 35 heures qui sont passées par là, etc. la gestion des retraites qui va faire en sorte qu'on va rester un petit peu plus longtemps normalement au travail. Ben, à mon avis, les dossiers de motivation, implication, valeur d'entreprise, ça va à mon avis, prendre beaucoup plus d'essor.
Et en termes de pénurie de manœuvre, on n'en parle pas encore beaucoup, mais en termes de difficulté à sourcer des candidats en entreprise, toute cette sociologie du travail peut faire un élément différenciateur d'une entreprise à une autre pour attirer plus de candidats. Si elle l'affiche, si elle communique sur ses valeurs, si elle communique sur son mode de management, si elle communique sur tout ça, ça fait des éléments pour attirer plus facilement des candidats. Donc, sociologie du travail, travail de l'ombre, oui, mais important, primordial en termes de ressources humaines. Et ne les laissez pas au terme de la communication externe. C'est du domaine des RH.
Alors c'est vrai que, en fait, la communication de recrutement est en train de changer en ce moment. On est sur les cyber-recruteurs et on se dote d'outils extrêmement virtuels et puis mis en ligne. Ce qui, d'une part, de vous à moi, est recherché, puisque ça réduit de 50% le temps du recrutement. Hein, un cadre, on mettait peut-être 3 mois, 4 mois à recruter précédemment. Aujourd'hui, un bon recruteur se doit de le recruter en un mois, voire un mois et demi maximum. Les as de l'informatique et d'Internet, sachez-le, le recrutement vous attend. Donc, ils utilisent également des communications extrêmement beaucoup plus simples que ce qu'on a vu précédemment, où là, il y avait effectivement beaucoup de travail en termes de communication recrutement. Et là, ces derniers temps, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est sur des choses extrêmement, des valeurs fondamentales de base qui reviennent apparemment à la mode. Alors, comme on est dans l'informatique, restons-y. Puisqu'en fait on cherche également des as en fait du système d'information, parce que de vous à moi la création de valeur elle se fait pas au niveau de l'administration du personnel. On part du principe que tout roule, tout est informatisé. Elle va se faire justement sur les choses qu'on va mettre en ligne et qu'on va décentraliser au niveau du management. Donc en termes de RH, on cherche vraiment des gestionnaires de projets pour mettre en fait des progiciels et des logiciels qui vont faire en sorte qu'on va être deux fois, voire trois fois plus efficace en une seule journée. Et on cherche vraiment des gens qui puissent avoir un vernis informatique et qui puissent mettre justement et adapter en place ce qu'on appelle des ERP, donc des progiciels intégrés au niveau de l'entreprise, pour qu'en fait il y ait un reporting, peut-être, ou une traçabilité en tout cas, de l'absentéisme, des effectifs par CSP, des salaires, de la rentabilité de chacun éventuellement, ce qu'on appelle le taux de rendement synthétique, et puis éventuellement des formations dispensées, de tous les historiques. Donc en fait, on cherche vraiment des gens en gestion de projet qui soient capables d'implanter un logiciel en termes de ressources humaines, et Dieu sait que c'est pas si simple que ça.
Système de pilotage RH. Toute la gestion des tableaux de bord, des indicateurs pour pouvoir valider qu'on est bien sur la bonne trajectoire. Primordial.
Alors, je crois qu'il existe des formations complémentaires à un DESS GRH classique où on vous apprend à piloter un
projet informatique. En Master 2, il y a des présentations, il y a deux SIRH qui leur sont présentés en utilisation basique, primaire, mais effectivement après c'est la formation complémentaire, mais indispensable dans vos futurs métiers. La maîtrise d'un système d'information aux ressources humaines est primordiale.
Alors, ça c'est une cartographie que j'apprécie et que j'ai construite pour en fait une association où je pense notre corps de métier, quelque part, c'est le développement des compétences. Contrairement à ce que j'aurais pu mettre administration du personnel, on est bien d'accord, mais c'est vrai que je suis un petit peu déformée parce que, en fait, je suis plutôt dans un grand. Donc, pour moi, notre cible, en tout cas, c'est le développement des compétences. Donc, on est vraiment sur l'homme, quand même. Hein, même si j'ai un discours qui est quand même assez économico-stratégique. Sachez-le, ma cible, c'est vraiment l'humain et surtout son employabilité dans l'entreprise et surtout la gestion dans le temps. Ça, c'est fondamental et non pas à court terme. Ce qui m'agace, c'est le court terme. Alors, développement des compétences. Autour de ça, on a plein d'outils, en fait, nous, au niveau RH. On a effectivement tout ce qui est la motivation et l'évaluation des performances autour des entretiens de professionnels. On a en fait la mobilité, c'est-à-dire tout au long de la vie, là, j'ai presque envie de dire, notre population, bah, en fait, ce qui serait bien, c'est qu'ils ne rentrent pas éventuellement employés administratifs et qu'ils finissent employés administratifs avec quelques échelons et un peu plus de salaire en fin de carrière. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'il est peut-être employé administratif, mais il a peut-être des velléités ou des dons au niveau informatique, il peut très bien peut-être aller comme analyste programmeur et repartir éventuellement ensuite, je ne sais pas, en comptabilité, en gestion de projet informatique au RH et finir, etc. Donc c'est de la construction de passerelles, de mobilité, qui est le cœur de métier de la PEC, là, je suis en train de...
Alors, en interne aussi.
Et en interne, ça se fait...
La cartographie des compétences et les passerelles font partie du métier, définir en interne quelles sont les possibilités de trajectoire entre un poste et un autre, quelles compétences à acquérir entre tel poste et tel poste, et donc mettre en place le système de formation, le plan de formation, pour pouvoir permettre aux personnes qui ont envie d'évoluer dans l'entreprise, d'évoluer tout en servant la stratégie de l'entreprise. Donc tout ça, c'est aussi bien du domaine de prestataires externes qui peuvent intervenir sur l'accompagnement à la gestion de carrière d'individus, mais c'est du domaine du RH en interne qui le fait sur une population et sur des trajectoires, des filières métiers en interne.
Il faut le savoir, ça peut être géré au coup par coup, mais ça peut être également suggéré, parce qu'il y a des gens qui ne se posent pas de questions et qui sont là depuis quand même pas mal d'années. Et ensuite, ils s'étonnent de ne pas avoir une politique salariale conséquente, etc. Donc c'est peut-être à vous aussi d'être proactif et d'aller au-devant de ces personnes. Ça dépend des générations, mais sachez-le, il y a des personnes qui attendent de leur coin que vous les convoquiez et que vous leur proposiez éventuellement quelque chose. Ça m'a surpris au départ, mais bon, c'est comme ça.
Développement des compétences, mais aussi stimulateur d'idées, de projets. Ça, c'est le domaine aussi des RH et des prestataires, qu'on l'appelle. Mais c'est ça. Une personne, oui, beaucoup de personnes rentrent dans une entreprise en disant... Ça y est, le tour est joué, j'ai un poste, je suis tranquille jusqu'à la retraite. Ouais. Fini ça. Ça n'existe plus. Il va falloir vous remettre en cause régulièrement, étudier votre environnement, étudier l'environnement de l'entreprise, voir si vous avez une trajectoire possible en interne ou en externe. Mais il faut prendre les choses en main. C'est vous qui êtes, là c'est en tant que jeune, pas forcément Master 1, mais en tant que jeune, prenez votre parcours en main tout au long de votre vie. On en parle, ça fait partie des thèmes dont vous entendez parler. La gestion de sa vie, de son parcours professionnel tout au long de la vie, la formation tout au long de la vie, le DIF qui se met en place avec ça, la sécurisation des trajectoires professionnelles, bah, ça fait partie de tout ça. Soyez acteur.
Donc ça, c'est vraiment un module passionnant pour effectivement des gens créatifs. Il y a aussi, bon, ce que je vous ai mis, les NTIC, donc Nouvelles Technologies d'Information et de la Communication et tout ce qui est SIRH. Où là, on a des chantiers... Alors, le e-learning, ça a été très à la mode. Là, on entend moins parler. C'est vrai que ça prend pas forcément extrêmement bien. Par contre, le e-recrutement, ça explose complètement. C'est vrai que c'est quelque part... Après l'administration du personnel, c'est souvent le deuxième pôle qu'on externalise. Hein. De vous à moi, il y a le plan de formation qu'on est en train aujourd'hui de basculer aussi vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire demain? Je ne sais pas. E-performance, c'est plus des entretiens de fin d'année qu'on historise, couplés avec un plan de formation éventuellement interne, etc. Donc vous voyez que tout se e-pilote aujourd'hui quand même dans l'entreprise. Donc voilà, donc bah, en fait, les gens qui ne sont pas très informatiques, peut-être à éviter prochainement.
Je peux même vous donner un nouveau mot que j'ai appris la semaine dernière, le speed networking. Donc c'est comme le speed dating, mais sous forme webcam et par informatique. Donc des entretiens d'une demi-heure, rapides, à distance, enfin voilà. Speed networking.
D'accord. Alors, moi j'ai appris que c'est le podcast.
Le podcast.
Et je ne sais même plus, effectivement, on a vraiment maintenant... des termes. Bon. Plan de formation, hein, plan de formation, donc il y a le plan, mais au-delà du plan, c'est vraiment la gestion de formation. Donc tout autour de ça, vous avez effectivement en interne ou en externe la gestion du plan et l'optimisation, donc avec un aspect quand même stratégique. Côté organisme de formation, vous avez des postes plutôt en ingénierie pédagogique ou être formateur, en fait, c'est-à-dire dispenser des cours, dispenser éventuellement, enfin du savoir, hein, mais au-delà, pas d'une manière peut-être avec un public initial, mais un public d'adultes. Hein, donc là, il y a vraiment en matière à faire des choses très sympas. Mais aussi en interne, c'est achat de stage. Le pôle budget formation est un pôle extrêmement lourd dans les ressources humaines. Et là aussi, on cherche à faire des économies. Donc, quelque part, on cherche à négocier les coûts pédagogiques. Donc, il y a des postes pour les bons négociateurs. Des bons négociateurs, il y a des postes éventuellement aux achats formation. Mais à l'inverse, hein, il peut y être en entreprise. C'est-à-dire, en fait, on peut très bien avoir un acheteur... référentiel compétences, bon, ça c'est un petit peu entre nous, entre guillemets, l'ex un petit peu usine à gaz de la GPEC qu'on est en train d'éclater complètement parce que la GPEC c'était vraiment trop compliqué, ça rendait, on parlait un peu chinois au niveau de nos opérationnels. Donc là on revient peut-être par des petites portes en fait, plus sur une logique de ISO. Ou qualité, méthode, process, où on est plus sur des descriptions de postes assez génériques en lien avec nos différents outils. Parce que ce qui est dommage, c'est également créer des outils, mais sans lien entre eux. Or, je pense qu'on fait des ressources humaines à partir du moment où on arrive à exploiter et qu'il y a un lien et une articulation entre tous nos outils. Sinon, on devient une contrainte, nous, hommes de RH. Tout autour de ça, vous avez tout ce qui est le futur demain. Hein. Gestion de projet, gestion d'affaires, amélioration continue, résolution de problèmes, c'est tout ce qu'on va nous demander demain. C'est-à-dire, une fois qu'on a mis nos outils, comment on les fait vivre et comment on les vend en interne et comment on fait qu'ils vont s'imbriquer dans d'autres choses que les ressources humaines. Hein. Les ressources humaines sont diffusées demain, seront diffusées demain, sont en train aujourd'hui d'être quand même beaucoup décentralisées au niveau du management. Et ne serait-ce que par les outils informatiques. Et demain, à mon avis, c'est tout ce qui tourne autour de la gestion d'affaires, gestion de projet, résolution de problèmes, aide au management, conseil, support, etc. Ce sont les métiers de demain. Bien sûr, on a tout autour de nous des différents contextes. Hein, outsourcing, c'est tout ce qu'on va éventuellement même peut-être mettre en dehors de nos entreprises qu'on ne gérera plus demain. Et puis, il y a le contexte économique qui, à mon avis, est international, qui aujourd'hui nous touche de plein fouet. Donc, par rapport à ça, on a beau vouloir mettre en place une politique RH, si on a un contexte économique qui fait que c'est pas porteur, on le fera pas, de toute façon.
Grande question, la RH stratégique ou pas? La RH est effectivement un service support de l'entreprise, comme l'est la direction financière, la direction commerciale ou autre. Mais on le verra après dans la fonction, de DRH quand on la présentera. La fonction RH est un élément, reprenons le terme, ressources humaines. Sans l'humain, l'entreprise n'est rien. Donc effectivement, stratégique, oui. Stratégique parce que les ressources humaines doivent servir le plan de développement de l'entreprise et parce que sans ce soutien des ressources humaines, l'entreprise ne pourra pas atteindre ses objectifs. Donc oui, sur le schéma, la direction opérationnelle, la direction fonctionnelle, dans la direction fonctionnelle, vous avez tout un tas d'organismes support et on le voit surtout dans les grands groupes. Où effectivement vous avez des services fonctionnels nationaux ou européens qui sont là pour apporter assistance à tout le réseau prod pour une entreprise industrielle, réseau commercial pour une entreprise de négoce et ainsi de suite. Donc stratégique primordiale. Les domaines de ressources humaines en quelques postes, et on va les regarder les uns après les autres. Donc le DRH, donc D voulant dire directeur, donc potentiellement, suivant la taille de l'entreprise et suivant la structure, membre du comité de direction. Donc, ce qui répond à la question précédente, stratégique ou pas, oui. Si le directeur des ressources humaines est dans le comité de direction, il fait partie de la décision, il prend les décisions stratégiques au même titre que le comité de direction. Donc, le DRH, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte un soutien à ses autres collègues du comité de direction, production, logistique, finance, marketing et autres, tout en définissant la politique ressources humaines de l'entreprise, en étant le garant de la législation ressources humaines, et en se projetant, les équipes, en projetant l'humain de l'entreprise vers l'avenir. Hein, les ressources humaines, c'est toujours se projeter vers l'avenir par rapport à un existant. Donc le directeur des ressources humaines, on y accède après une longue carrière et beaucoup d'étapes précédentes. Même des fois, certaines personnes ne peuvent pas aller jusqu'au poste de direction des ressources humaines, qui est un peu déconnecté aussi de la réalité de terrain, mais qui est plutôt du management stratégique, de la définition de projet, mais avec une perte de contrôle du quotidien. Ensuite, on va les regarder comme ça. Le directeur des ressources humaines, suivant la taille de l'entreprise, peut avoir des DRH de site, donc qui sont des relais opérationnels sur le terrain, donc qui sont en charge de faire appliquer la politique ressources humaines qui a été définie en comité de direction. Donc là, c'est plutôt un poste accessible après, on va dire, entre 5 et 10 ans d'expérience professionnelle pour une évolution classique que l'on peut prendre d'un poste du bas et en évoluant vers un poste de responsable de site. Responsable RH ou responsable des métiers ressources humaines. Donc là, on change de responsabilité, on passe d'un directeur à un responsable. Donc là, on passe sur des fonctions d'exécutant et on commence à rentrer sur des métiers de spécialiste. Parce que le responsable RH, suivant la taille de l'entreprise, aura des spécificités plus accrues. Dans certaines entreprises, on a un exemple là, le RRH est le responsable RH du site, avec un DRH délocalisé ailleurs. Donc il est en charge de la totalité des ressources humaines, de l'application de la politique des ressources humaines de l'entreprise sur son site industriel de production. Donc un contact très terrain, par contre, très terrain aussi bien avec les managers de service, aussi bien avec souvent les salariés, parce que dans le cadre de la gestion des carrières, ils viennent souvent en support se renseigner auprès de leur service ressources humaines pour avoir des informations, formations, législatives et autres. On a oublié une partie au niveau du directeur des ressources humaines, du directeur de site, la relation avec les partenaires sociaux. Je ne sais pas si en termes de RRH vous le faites vous dans ce
sens.
Donc le directeur des ressources humaines, de site ou groupe, est en charge de la relation sociale. Il est responsable des relations sociales. Il est en charge des relations avec les partenaires sociaux, des négociations annuelles, des comités d'entreprise, de tout ce qui est l'animation avec les partenaires sociaux d'entreprise. C'est pas une mince affaire, ça. C'est un travail. Plus l'entreprise est grande, plus c'est un travail à plein temps. Pour nous, l'APEC, on est 900 salariés et on a une personne qui est à plein temps en charge des relations sociales syndicats de salariés. C'est assez important. Effectivement, dans les petites structures, l'activité des ressources humaines est souvent rattachée à la direction de la DAF, direction administrative et financière. On a un exemple ici, une entreprise de Morlaix où effectivement ils ont 500 ou 600 salariés. Ils n'ont pas de service ressources humaines, c'est le DAF qui chapeaute ça et qui a une équipe de 4 personnes qui s'occupent des ressources humaines et qui font ça très très bien. Qu'est-ce que dans les PME? Ouais. Négociation sociale, on vient d'en parler, la mise en place des CE, des réunions de représentants du personnel, DP et CHSCT, c'est des termes qui vous parlent pour tout le monde, d'accord. Poste stressant, la commande que vous avez passée, les qualités requises pour les postes, oui, résistance au stress, pas plus, pas moins que dans votre métier, mais il y a quand même une forte résistance au stress à avoir dans ce métier-là, parce que les enjeux sont forts, c'est un compte énorme en termes de charges financières, c'est souvent plus de la moitié des dépenses de l'entreprise. Et puis quand vous avez des périodes troubles dans l'entreprise, parce que le ciel n'est pas toujours bleu, vous le voyez d'ailleurs même chez nous, le jour où le ciel se trouble et que vous avez à vous séparer de collaborateurs, ce n'est pas forcément les choses les plus faciles à faire, les plus simples à faire. Donc, il faut le faire proprement, avec le respect de l'humain. Et ça engendre souvent des malaises. Savoir dire non à quelqu'un, savoir dire c'est vous qui a été choisi. Ce n'est pas forcément facile. Donc, accompagner de personnes, ça demande beaucoup de tempérament et de force de caractère. Le DRH, monsieur stratège dans la grande entreprise, oui, on est vraiment, on disait tout à l'heure, l'intégration des ressources humaines, c'est fait partie de des décisions stratégiques. Donc il est là pour penser, pour être visionnaire, il a toutes les clés pour savoir où l'entreprise veut aller demain. Par contre, il a besoin de bras armés en dessous, qu'ils soient RRH ou spécialistes, comme on l'a vu dans l'organigramme, pour l'aider opérationnellement sur le terrain à pouvoir mettre en place toute cette politique RH qu'il va décider pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Donc oui, les formations, pareil, hein, formation, de toute façon vous allez vers le Bac plus 5 pour ceux qui ont en ressources humaines Bac plus 5 Master RH, donc c'est la formation minimum pour pouvoir espérer atteindre un jour ces postes de DRH, en sachant qu'il vous faudra une autre formation à un autre moment, sûrement, si vous voulez accéder à ces postes-là, qui sera plutôt une formation management stratégique ou management d'entreprise. Enfin, ça peut être une formation complémentaire, formation tout au long de la vie, vous allez en être des acteurs, mais aussi des participants au quotidien. On en parlait tout à l'heure, donc la communication RH doit rester en RH dans la mesure du possible. Si un jour vous avez à vous battre sur ce terrain-là en entreprise, battez-vous pour que ce domaine de la communication RH, c'est un métier à part entière. Ne mettez pas un marketeur pour faire la communication RH. Les services ressources humaines, enfin l'humain, n'est pas un service à vendre. C'est c'est de la sensibilité en puissance à gérer. Donc quand on a un message à faire passer en interne en entreprise, il vaut mieux que ce soit un message de spécialiste, de personnes qui connaissent la réglementation, le droit du travail, savoir ce que l'on peut dire, ce que l'on ne peut pas dire, savoir à qui on doit le dire, savoir dans quel ordre on doit le dire, est-ce qu'on doit prévenir le CE, est-ce qu'on ne doit pas prévenir le CE. C'est vraiment un métier de spécialiste. Et puis c'est un outil, c'est un levier de communication. Là. Autant quand on consomme de la pub à la télé pour acheter du produit en interne, c'est un levier de motivation. Aller communiquer en interne sur le projet d'entreprise qui va être de dépenser un peu plus sur le budget formation pour permettre aux salariés d'entreprise d'acquérir de nouvelles compétences et permettre à l'entreprise d'aller plus loin dans son développement. Il faut le faire avec les formes, il faut utiliser cet outil de communication pour pouvoir permettre aux salariés de l'accepter. Alors, c'est pas de la manipulation, c'est de l'information. Et donc, ça doit se faire dans un contexte très précis. Et c'est un levier puissant. Après, on arrive sur les métiers donc de sourceur et de recruteur. Donc, tout ce qui va être, je fais rentrer du monde dans l'entreprise. Je fais rentrer du monde par rapport à des enjeux de l'entreprise. Hein, une information, c'est qu'on ne recrute pas quelqu'un parce qu'il y a une chaise vide. On recrute quelqu'un parce qu'on a besoin de compétences dans cette chaise, de savoir-faire. Donc, tout ça, ça répond à la politique qui a été décidée en comité de direction, vers quoi l'entreprise va et de quelles compétences a-t-on besoin. Est-ce qu'on les a en interne, promotion interne, mobilité interne, et si on les a pas en interne, est-ce qu'on peut aller les chercher en externe? Est-ce qu'elles existent sur le marché? Donc, le métier de chargé de recrutement est un métier, souvent un métier d'entrée. Quand vous rentrez en cabinet ou que vous rentrez en entreprise, c'est souvent un métier par lequel on vous fait passer, parce que c'est un métier très formateur. Mais c'est un métier où on ne reste pas très longtemps, hormis si on veut devenir consultant, chasseur de tête ou travailler dans un cabinet comme consultant en recrutement. Mais c'est un métier excessivement formateur, d'autant plus dans les années à venir, où il y a l'amplification de cette disparité démographique qui fait qu'on est en pénurie de compétences sur certains métiers, principalement des métiers de production, sur des métiers commerciaux, sur des métiers. Après, on est sur d'autres secteurs d'activité, sur des secteurs d'activité type bâtiment, hôtellerie, ça en 7 jours, c'est conjoncturel, ils ont toujours été en déficit. Mais par exemple, on commence à avoir des déficits dans le domaine du sanitaire et du social. Enfin bon, la gestion, quand on est chargé de recruter et de faire remplir des postes dans l'entreprise et qu'on trouve personne, oui, ça devient un métier très, très pointu. On parlait tout à l'heure de métiers qui s'externalisent. Moi, je peux vous donner un exemple qui est tout récent. Une entreprise qui s'appelle Airbus, qui a un service ressources humaines Europe de 25 personnes, vient d'externaliser la totalité de leur recrutement cadre à la FEC. 1000 recrutements cadres à faire d'ici le 31 décembre. Parce qu'ils ont dit, nous, nos métiers, on sait sélectionner, on sait évaluer, on sait intégrer, mais pour attirer des candidats, on n'a pas le temps, on perd trop de temps et c'est pas rentable. Vous, APEC, vous vous dites que vous savez le faire, on vous le donne. Et là, on va signer Motorola pour 800 postes aussi. Vous voyez, les entreprises ont tellement de mal à trouver des candidats qu'elles externalisent cette partie-là. Et puis nous, on va leur donner des shortlists de personnes déjà pré-sélectionnées par rapport à leurs besoins. Donc, chargé de recrutement, chasseur de tête. Chasseur de tête, c'est un mot qui peut faire peur. Chasseur de tête, hein, qu'est-ce que c'est? C'est je ne communique pas sur un poste, mais je vais chercher les personnes qui peuvent correspondre au poste où elles sont. Donc, je n'attends pas que les gens viennent à moi, c'est je vais chercher les gens où ils sont. Donc, en général, comment ça se passe, c'est vous avez une entreprise qui a un poste de directeur de prod, par exemple, à recruter. On fait ça sur des postes à forte valeur ajoutée parce que ça coûte très très cher à l'entreprise. Hein, qui passe commande auprès d'un cabinet pour faire la chasse, ça coûte très très cher. Entre 50% et 100% du salaire brut annuel, suivant le poste. Donc, c'est pas donné. Je regarde un petit peu quel est l'environnement de l'entreprise sur un poste de directeur de production par exemple, quels sont les concurrents, quels sont les fournisseurs, quels sont les métiers proches de l'entreprise pour lequel je travaille, et on va aller chercher voir les directeurs de production des entreprises connexes pour voir s'il n'y en a pas un qui peut correspondre au profil. Et puis le tout, c'est de l'approcher pour essayer de l'évaluer, et puis à un moment ou à un autre peut-être lui faire une proposition et lui dire voilà, je suis en train de chercher un collaborateur, ou je suis missionné pour recruter un collaborateur, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Donc voilà ce que c'est que la chasse. Vous serez chassé le jour où vous serez top niveau. iPod, au potentiel. Voilà, ensuite, le responsable du reporting social. Alors je vous avoue que celui-là, je vous le laisse parce que je ne suis pas très calé sur celui-là, je ne l'ai pas vu souvent.
En fait, c'est plutôt dans les grands groupes. Hein. Ouais. Dans les grands groupes, c'est justement avec les ERP, essayer de consolider quand on a plusieurs entités ou vraiment dans les grands groupes, les sièges sociaux, c'est avoir des indicateurs clés en fait.
Faire la consolidation.
Consolidation. Et du contrôle de gestion sociale. Souvent, on prend des contrôleurs de gestion de formation.
Ok. Alors après, le nerf de la guerre, le compte de charge. Le gestionnaire de la paye et l'administration de la paye. Bon, et ça, c'est un métier important, primordial. Hein. Vous imaginez simplement, je vais prendre un exemple, mais qui est extrêmement bateau et ancien, mais qui parle de lui-même. Vous êtes sur un groupe comme Thales ou sur une branche de Thales, vous avez 1000, 2000, 3000 salariés, vous oubliez simplement de mettre à jour tel pourcentage de cotisation ou autre. Vous imaginez 1% de la masse salariale, ce que ça peut représenter sur un groupe comme ça, c'est énorme. Donc ça fait partie de ça, de contrôler que tous les montants de prélèvement sont bons, que c'est que ça correspond aux émissions de chèques ou de virements, que tout le monde a bien été payé à la base, au minima, que les versements aux caisses de retraite, aux caisses de sécurité sociale, à toutes les différentes caisses sont faits. Enfin, voilà, c'est toute la partie la plus gestion administrative des ressources humaines, tout ce qui fait la partie comptable des ressources humaines. Donc ça, c'est important aussi. C'est un métier de technicien parce que ça demande de connaître et déjà les systèmes d'information, parce que beaucoup de choses sont informatisées, enfin tout d'ailleurs. Mais ça demande aussi, en qualité humaine, de la rigueur et de la persévérance, parce que c'est un métier, autant quand on gère des compétences, on n'est pas dans le routinier, autant là, on est dans l'excessivement routinier. Donc, bon, ça ne peut pas convenir forcément à tout le monde.
Il faut savoir que l'intitulé RRH dans certaines entreprises locales ici, c'est vraiment de l'administration du personnel. Oui. C'est ainsi.
Dans les PMU, PME, hein, vous en avez bien conscience, c'est un petit peu de tout ça. C'est un petit peu de tout ça avec les mêmes responsabilités que dans un grand groupe. Sauf que responsable de la paye, responsable du recrutement, responsable de la politique RH, responsable des relations PMU, PME avec les relations des partenaires sociaux, non, il y a des failles critiques quand même. Mais, oui, c'est. Il est beaucoup plus pratique, ça c'est un avis personnel, vous allez si vous êtes d'accord, mais beaucoup plus pratique d'intégrer un service aux ressources humaines dans un grand groupe et d'apprendre son métier petite tranche par petite tranche que d'arriver dans une PMI, PME et de se dire ah là, j'ai toutes les ressources humaines à bout de bras. Ou là, c'est. Pour un jeune diplômé, ça me paraît un petit peu difficile. D'accord ? Il y a, entre le grand groupe et la PMI, PME, on fait tout, il y a des intermédiaires, on peut faire un petit peu des missions un peu plus larges. Mais c'est un métier tellement large que demain, vous allez vous spécialiser dans quelque chose ou au contraire, vous allez monter en hiérarchie pour faire de la globalisation. L'assistant RH, bon là, c'est le port d'entrée que je vous souhaite tous d'atteindre.
Oui.
Pour ceux qui veulent devenir rentrer dans les ressources humaines plus tard, assistant RH, donc c'est la petite main, et quand je dis petite main, c'est absolument pas péjoratif, bien au contraire, on aimerait en avoir plus des petites mains pour nous aider à sur des missions, sur des projets, sur oui, surtout sur des projets où on a besoin de personnes qui ne soient pas la tête dans le guidon, mais qui aient le temps de pouvoir étudier, analyser et nous remettre des éléments pour qu'on puisse prendre des décisions derrière. L'assistant RH fait partie de ces éléments-là, de mise en forme de tableau de bord, de présélection de candidats, de prévalidation des payes, voilà. Ça permet d'avoir une première vision de ce qui se passe, sans en être acteur, forcément, mais au moins de bien comprendre les mécanismes. Un mot qui était important tout à l'heure sur la roue qui avait été faite, c'est l'interaction entre tout ça. Parce qu'effectivement, ce ne sont pas des missions côte à côte, ce sont des missions qui travaillent les unes avec les autres et qui interagissent à un moment ou à un autre, les unes avec les autres. Donc
c'est pas si simple.
C'est pas simple, mais c'est passionnant. On n'y serait pas depuis aussi longtemps. Responsable formation. Responsable formation, quand ce poste existe dans une entreprise assez grande, ben il est responsable de 1,6% de la masse salariale à minima à investir, c'est pas à dépenser, c'est à investir le plus rationnellement possible pour faire évoluer les personnes en interne, pour atteindre pour permettre pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Donc c'est recueillir des besoins, analyser si ces besoins sont en corrélation avec les objectifs de l'entreprise, c'est choisir des prestataires, internes ou externes, c'est acheter de la formation, effectivement l'achat, la gestion des coûts est quand même primordiale, et après c'est le suivi de la formation, et puis après on passe dans l'administration des ressources humaines, où ça va être pouvoir référencer ça auprès de chaque individu pour savoir quel est son parcours de formation qu'il a eu tout au long de sa vie professionnelle en interne, et pouvoir lui permettre d'évoluer. Donc la personne en charge du budget formation, c'est aussi un poste important qui est assez chronophage, parce que même s'il se passe souvent les budgets, on les connaît sur un trimestre à peu près, mais ça doit s'étaler sur toute l'année. Donc c'est pas former tout le monde au même moment, c'est former à plusieurs moments de l'année, voir avec les responsables de service quand est-ce qu'ils peuvent extraire leurs équipes des postes de travail pour rentrer en formation. Donc c'est jouer sur des sensibilités aussi, parce que le manager, lui, il a des objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre. Et puis si vous dites, un tel ou un tel a souhaité ou on a besoin de le former, il faut l'extraire de son poste de travail. Oui, mais est-ce que je peux avoir un remplaçant ou de l'intérim? Ah ben non, alors là on va avoir le budget, mais non, ça va pas dans le budget. C'est encore une interaction, le poste responsable de formation, c'est un élément clé. On a parlé de gérer la ressource humaine, manager les compétences. Ça, c'est la base du management des compétences.
Alors, le responsable de formation va devenir un homme stratégique au niveau des ressources humaines, parce que la formation, c'est un moyen, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, effectivement, la fin en soi, c'est le développement des compétences. Donc, c'est pas la solution de développement des compétences, c'est pas une solution tout formation. c'est une solution, tutorat, mentoring, mise en situation, apprentissage tout le long de la vie, c'est itinéraire, mobilité, etc. Donc l'appellation responsable formation va refléter demain vraiment une vision stratégique au niveau des concepts, des outils, mais également au niveau budgétaire. Parce qu'on va lui demander avec la réforme de 2004 sur tout ce qui est période de professionnalisation et puis tout ce qui est hors temps de travail ou sur le temps de travail, d'aller chercher des subventions à l'extérieur et voir d'outsourcer en fait toute la partie non créatrice de valeur, à savoir l'administration de la formation. C'est-à-dire en fait des inscriptions en stage, et éventuellement les convocations, les annulations, etc. Le dossier de formation, etc., a priori, ne sera plus à l'intérieur des entreprises. Donc ça va créer de l'emploi au niveau de l'externe, au niveau non seulement des OPCA, mais éventuellement de cabinets conseils qui vont se spécialiser dans tout ce qui est formation. Donc voilà. Donc en fait, le responsable formation va devenir vraiment un réel stratège, tant budgétaire que créatif, parce qu'en fait, on va peut-être voir des centres ressources internes exploser dans les entreprises, c'est-à-dire éventuellement tout faire en interne, et seulement en interne, en invitant éventuellement certains salariés à devenir formateurs internes tout bonnement à temps plein. Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir plein de choses assez innovantes, et ça existe déjà, sachez-le, mais on ne le sait pas. Néanmoins, le domaine de la formation va devenir, à mon avis, tant au niveau du recrutement, aussi bien qu'au niveau du recrutement, un domaine quand même très spécialisé et extrêmement demandé demain.
Mais on va plus vers des postes gestionnaires, vers la formation, plus que vers les créations de besoins, etc. Avec les OPCA, etc. On va plus vers là.
C'est ça que j'appelle un peu stratégique, c'est-à-dire que ça va être des gestionnaires effectivement avec avec ce qu'on appelle des fournisseurs externes.
Oui, c'est externe. Il y a certaines PMI PME qui externalisent totalement leur budget formation auprès d'un OPCA et qui les chargent de leur faire des propositions. Il y a un rôle de veille aussi. Effectivement, il y a des organismes, des entreprises qui créent leur propre centre de formation en interne, mais il y a aussi un besoin de savoir ce qui se fait, parce que quand on détermine qu'on doit faire passer une compétence, une personne avec telle compétence vers une autre compétence, où trouver ce complément de formation? Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas spécialement de la formation en salle comme ça, mais il y a effectivement tout un tas d'autres modules, d'autres moyens, d'autres outils pédagogiques. Donc ça veut dire que la personne qui est en charge de ce morceau des ressources humaines doit vraiment faire de la veille stratégique, d'où le complément c'est un poste extrêmement stratégique. Oui. Mais ce n'est pas uniquement de la gestion financière, c'est vraiment de la gestion de l'humain, de la compétence. Responsable RH de site, on l'a vu tout à l'heure, c'est le RRH délocalisé qui est en charge en proximité avec le manager de site, qu'il soit directeur, le manager de site, de faire évoluer, développer les compétences pour avoir la meilleure rentabilité possible.
Alors de vous à moi, alerte rouge, ouais. Les postes généralistes sont en perte de vitesse, il faut le savoir. Les postes généralistes sur des sites, c'est aujourd'hui des postes qui sont en train d'exploser. Donc, je vous l'indique, on en recherchera moins.
Du fait qu'il y aura des supports.
Des supports très spécialisés, très pointus, et puis le généraliste, en fait, il est bon après 15 ans d'expérience, quoi. Parce que le temps qu'on se forme et qu'on ait une vue sur toute la panoplie du métier. Être un bon juriste, mais un fin diplomate, un super négociateur, mais également
un bon acheteur,
être stratège, mais quand même gérer l'administration du personnel. Il faut quand même un petit peu de bouteille. Donc en fait, pas généraliste, aujourd'hui est en perte de vitesse.
Chargé responsable de la gestion des carrières. Ça, c'est un poste qui n'est pas très très vieux, qui a une dizaine d'années dans la contractation, du fait justement de la GPEC, de ce qui s'est surtout découlé derrière la GPEC, le management des compétences et par les compétences. Donc, où on a des personnes dans les grandes entreprises qui ont été chargées de réfléchir à des trajectoires, des passerelles. Alors là, les noms tous aussi imaginatifs les uns que les autres, mais quand même bien significatifs. Passerelle, trajectoire, c'est d'aller d'un point à un autre en termes de carrière professionnelle, en termes de parcours, en termes de métier, en termes de poste. Donc comment, qu'est-ce qui peut se passer dans une entreprise pour passer d'un poste à un autre? Nous, on en a une qui me vient à l'esprit chez nous, c'est comment on fait passer quelqu'un d'un poste d'assistante à un poste de consultant. Donc on a construit un parcours professionnel avec des étapes deux formations en salle, deux pratiques en observation avec un consultant, deux co-animations, voilà. Comment construire ça? Quelles sont les compétences clés que la personne doit acquérir pour devenir consultante? Qu'est-ce qu'elle a au départ et comment on construit le parcours entre les deux? Donc ça, c'est un métier qui tend vraiment à se développer. Le payeur au gestionnaire de paye, je vous avoue, je ne suis pas très clé sur celui-là.
C'est un poste très technique en fait, hein. On est vraiment effectivement sur le bulletin. Pas mal d'informatique, souvent c'est la paye plus l'administration du personnel, c'est-à-dire en fait l'avenant, le contrat de travail, etc., les relations avec les organismes qui vont bien. C'est vraiment la technicité pure. Hein.
C'est un poste qui est souvent externalisé sur les PME, ça, sur les cabinets comptables
Alors, des fois, c'est souvent sur les cabinets comptables, effectivement, mais souvent le poste RH, enfin RRH dans les PME, PMI, on se doit de maîtriser si on veut être embauché. Donc, quelquefois, c'est un passage obligé, au même titre que l'assistant RH. C'est vrai que là, on a la technicité en main, donc quelque part, c'est une valeur clé quand même, tout de même.
C'est surtout en TPE que c'est externalisé, en fait.
Oui,
pas en PME.
Si on prend le critère PME jusqu'à 499 salariés, effectivement, oui, non. C'est moins de... Moi, je le voyais plutôt sur une entreprise moins de 200 salariés, moins de 100 salariés, où on peut encore l'externaliser en faisant juste des relevés de présence ou plutôt d'absence par à son organisme. D'ailleurs, il n'y a pas que les organismes comptables qui le font. Je vois une pub là derrière moi sur un support sur personnel où il y avait un organisme qui fait de l'externalisation de paye, justement. Pas galère. Ok.
Alors, les qualités, est-ce qu'on peut les partager ensemble?
Oui.
C'est vrai que, à terme, pas tout de suite en fait, hein, c'est plutôt sa stratégie, c'est-à-dire en fait l'articulation entre tous vos outils, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, c'est surtout articuler, essayer de présenter une cohérence, sinon vous ne serez pas crédible, et quelque part on va dire, mais ils nous donnent beaucoup de contraintes, mais quel est le lien, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils nous racontent encore? Ils causent intelligent, mais derrière, en termes d'action, je ne comprends pas trop.
Quel est le sens? Pour ceux qui feront GRH l'année prochaine, on va vous donner les outils. On va vous donner les outils à mettre dans la caisse à outils. Après, il va falloir que vous donniez du sens à tout ça et vous compreniez par rapport à tous les postes qu'on vous a présentés, les interactions et que vous compreniez où vous avez un rôle à jouer par la petite porte par laquelle vous allez rentrer.
C'est ça qui est le plus dur.
Et toujours se projeter en ressources humaines. L'instant présent est déjà dépassé. Donc, demain, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vers quoi je vais être? Toujours être en anticipation.
Et ça, c'est la deuxième chose la plus dure, parce que quelque part, vos opérationnels, ils sont dans le court terme. Oui. Leurs affaires, il faut les sortir. Leurs produits, c'était pour hier. Il faut les produire. Et là, vous êtes en train de les enquiquiner avec votre développement des compétences. Donc, attention. Gestion financière, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté dessus, mais quelque part, c'est le nœud de la guerre, je suis désolée, on coûte cher, donc déjà nous, en tant que service, mais en plus, on a des budgets, donc quelque part, on se doit de bien les dépenser.
La connaissance des mécanismes de pouvoir et de décision, parce que vous serez, pour ceux qui iront en RH, entre les opérationnels et la direction, vous aurez des indications, des orientations qui vous viendront d'en haut, avec des contraintes qui vous viendront d'en bas, et il faudra faire avec les deux. Donc,
les salariés
attentes des salariés. Alors, le poste de RH, attention vis-à-vis des salariés, ça peut être un personnage à deux visages. Ça peut être la crainte du service ressources humaines. Ouh là là, quand je suis invité à venir au service ressources humaines, c'est pas ça. on peut penser au départ que c'est pas bon. Et puis aussi, c'est surtout un support. Un support quand il y a vraiment cette communication qui est bien faite, qui est faite déjà, qui existe, entre le service ressources humaines et le service RH. Le service ressources humaines, service d'appui au manager, mais service d'appui aussi à tous les salariés d'entreprise. Ça, c'est important. Et donc, ça veut dire bien connaître les interactions, quelles sont les attentes des uns et qui ne sont pas forcément les objectifs des autres. Il faut jongler entre les deux.
Un positionnement pas facile et également, un mécanisme de pouvoir, c'est en fait, votre politique des ressources humaines doit être absolument en cohérence avec la politique quelque part de l'entreprise. Sinon, vous ne serez pas supporté par la direction générale et vous avez beau être un bon financier, un beau stratège, avoir plein d'idées, beaucoup de motivation, beaucoup de dynamisme. Si vous n'avez pas réussi à vendre en fait votre cuisine au niveau de la direction générale, vous n'y arriverez pas. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Donc quelque part, c'est également arriver à se faufiler au niveau des dirigeants, essayer de surtout et d'être convaincant, enfin en tout cas de bien montrer le bien fondé de votre politique RH et derrière ça roulera. Mais c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Donc parce que quelque part dans les systèmes de pouvoir et de décision, il y a déjà une petite guéguerre qui existe souvent.
Une chose que je rajouterais là-dedans qui n'apparaît pas, c'est le niveau de responsabilité, de confiance et de déontologie que vous devez avoir. Parce que vous allez être informé de certaines choses venant d'en haut que vous ne pourrez pas dire en bas. Et ça, c'est des moments des fois des grands moments de détresse. La solitude, dans ces cas-là, ça arrive. Et savoir quelles sont les interactions entre, effectivement, les différents organes de l'entreprise, comprendre tout ça et ne pas pouvoir communiquer sur tout. Ça, c'est une des contraintes du poste. Être informé, savoir des choses et ne pas pouvoir communiquer, c'est obligé de le garder.
Il y a aussi en déontologie, soit en recrutement, gestion de carrière, tout ce qui est le copinage aussi. Hein.
Ah bah, ouais, oui.
Aussi intègre pour pas tout le monde qui vient voir avec des CV ou des gens.
Alors ça encore, la cooptation, c'est pas encore très très grave, mais copiner avec des personnes.
Cooptation, piston, des fois, frontière.
Oui, sauf que maintenant, avec les méthodes de recrutement qui sont quand même très factuelles, où on recherche des compétences, on a beau être le copain si on n'a pas les compétences, ça marche de moins en moins pour rentrer dans une entreprise.
Tu parles en interne ?
Oui, en interne.
Ouais. Ah, en interne ?
Tu parles en interne.
Sollicitation interne.
Oui, ça c'est... Donc le copinage, il faut être prudent. Après, c'est de la relation humaine, mais... faut être prudent parce que ne serait-ce que pour vous protéger, le jour où vous avez une décision à prendre ou une information à donner à quelqu'un avec qui vous avez copiné et qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est pas forcément facile. Donc attention, oui, pour vous préserver, éviter cette solitude dont je parlais tout à l'heure.
Sociologie d'organisation, pour moi, on ne peut pas faire des RH sans comprendre l'organisation. Enfin, pour moi, on ne peut pas, c'est fondamental, l'un va de pair avec l'autre. Parce que sinon, quelque part, on est déconnecté et on ne peut pas anticiper. C'est comme faire des RH avec un contexte économique, international, etc., qui, de toute façon, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser et qui influent. Donc on a beau vouloir avancer et aller dans un sens, on ne pourra pas. Et l'organisation, c'est ça. L'organisation, elle est là pour, en termes de traçabilité, en termes d'encours, en termes de dynamique, d'interaction, c'est de la création de valeur. Hein. C'est le concept, peut-être que vous le connaissez, justement. Donc de toute façon, nous, on se doit de suivre ça. On ne peut pas aller à l'encontre ou on ne peut pas être en parallèle. Donc... C'est vrai que organisation et RH, pour moi, ça devrait être un tout et j'espère que c'est déjà inscrit dans le cursus des DESS parce qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Être bilingue, c'est fondamental. Aujourd'hui, si on n'est pas bilingue en RH, on ne pourra pas travailler dans un grand groupe. Si
et
vous travaillez...
Même dans une petite entreprise. Maintenant, on va sourcer avec, à l'étranger aussi.
Peut-être.
Même pour une PME, pour un poste d'encadrement... comme si on ne trouve pas la ressource en France, on va être obligé d'aller sourcer ailleurs. Hein. J'ai placé, pas plus tard que l'année dernière, deux personnes, un Suisse et un Hollandais, à Lamballe et à Guingamp. Sur des métiers de base, hein, directeur de production dans une imprimerie sécurisée, pour faire des tickets de loto. Et puis, pour le Suisse, c'était pour un directeur commercial export parlant allemand. Vous voyez, dans l'entreprise, il y a un moment où oui, il faut que la culture étrangère, enfin le fait de s'ouvrir à l'étranger, qu'on voit bien, on a une organisation en Bretagne qui existe depuis de nombreuses années et qui est en train de se développer, qui s'appelle Bretagne Internationale, pour aider les PMI, PME à se développer à l'étranger. Les entreprises vont aller se développer, conquérir de nouveaux marchés. Le marché local, ça ne fait plus vivre une entreprise. Donc, être bilingue, gérer des ressources, l'ouverture des frontières, on peut travailler n'importe où. Vous pouvez avoir un Anglais qui postule dans votre entreprise et qui a le souhait d'apprendre ultérieurement le français, mais qui a des compétences qui l'intéressent, pouvoir échanger avec lui. Ouverture culturelle, primordiale, vous devez être des apporteurs de solutions si vous êtes en ressources humaines. Donc, vous devez être en veille permanente. Sur ce qui se passe, le benchmarking sur les autres entreprises. Il y a des associations qui vous aideront à ça quand vous serez dans les fonctions RH, type ANDCP, qui sont des associations de DRH, de praticiens des ressources humaines, pour échanger, faire des échanges d'expériences, de pratiques, et essayer d'avoir un réseau pour pouvoir échanger sur ce qui peut se passer, ce qui peut marcher ailleurs et être transposable dans l'entreprise. Donc, ouverture culturelle, toujours les antennes partout.
Donc, capacité à anticiper le changement, donc ça, on a bien insisté sur ce fait-là. Et puis aussi animer une équipe technique ou pilotage de l'externe. Donc, ça, c'est le côté coordination et puis organisation, comme une conférence. Hein, c'est en amont la publicité, construire un programme. Et puis en termes de timing, planifier et ensuite peut-être évaluer, j'espère. Mais tout ce qui est management. Alors ce qu'il faut savoir, bon, ça c'est vrai que c'est un avis personnel. Je parle en tout cas. Peut-être que je serai confortée par Fabrice Andois, mais en tout cas, c'est vrai qu'en fait c'est quand même un poste isolé dans l'entreprise. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure, et j'ai grossi le trait, hein, mais c'est mon genre, je crois que vous l'avez compris, la communication, le côté sympathique, etc. Bon, il faut le savoir, en général, c'est pour résoudre quand même des problèmes. Hein. Donc, l'intégrité, on ne peut pas se faire du copitage, nous, on ne peut pas faire du copitage en interne, parce que l'intégrité, on la perdra. Hein. Là aussi, on est quand même porte-parole de la direction, mais quelque part, quand le salarié il vient nous voir, il attend de nous qu'on soit garant de l'équité. Donc on a beau être direction, on se doit de faire de l'empathie et pouvoir comprendre pourquoi, de l'autre côté du miroir, le salarié estime qu'il y a une injustice. Et par rapport à ça, se mettre régulièrement à sa place. Pas si facile que ça, je peux vous dire. Marge de manœuvre restreinte, là, en termes de budget, on est quand même, c'est quand même, mine de rien, assez ric-rac. À partir du moment où on n'a pas pu vendre notre politique RH au niveau de la direction, c'est pas si facile que ça, parce qu'on peut très bien ne pas être soutenu, et en tant qu'RH ne pas être soutenu par sa direction, c'est extrêmement difficile. Donc voilà, gestion des rapports très humain, très imprévisible. L'humain est imprévisible de toute façon. On ne peut pas il faut y aller avec doigté. Et avoir plusieurs scénarios et négocier. Alors ça peut être négocier très dur, hein, lors de négociations obligatoires, pour éventuellement dans le cadre d'accords, ou alors négocier au quotidien. On fait des petites choses, mais qui font que petit à petit, on va arriver à être légitimé, ou en tout cas avoir une crédibilité dans l'entreprise. Et c'est pas évident, parce que les gens, quand vous arrivez dans la fonction RH, les gens attendent de voir. Vous avez beau avoir vous-même certitude que vous, de toute façon, vous êtes un bon professionnel, ça met énormément de temps à se faire. Et le marteau entre la position entre le marteau et l'éclume, pas toujours évidente. Là aussi, je pense qu'il faut être solide sur ses pattes. Il faut avoir des valeurs. Faut avoir un équilibre personnel. Je pense qu'il faut être toujours nous-mêmes dans une démarche, je pense, de développement personnel, essayer de mieux se comprendre pour arriver à comprendre les autres, être empreint de psychologie tout en étant quand même technique. Pas si évident que ça. Je pense qu'en fait, et là aussi, avoir une ouverture, sortir, soit de son cadre de référence, parce que quelque part, on a tous, en tant que personne, individu, une éducation, un cadre de référence. C'est arriver à sortir de ce cadre pour pouvoir éventuellement mieux comprendre l'autre. Donc, c'est pas si évident que ça. Et je crois que c'est bon, c'est, ça fait partie du fait que nous-mêmes, hommes des ressources humaines, on est toujours quelque part en quête et en recherche et en veille permanente. Pour le savoir, c'est pas un job si facile que ça. Alors les orientations pour l'avenir, là j'ai un schéma qui indique en fait, je pense qu'il y aura quatre orientations à l'avenir. Vous avez les experts administratifs qui sont plus dans une logique chiffrée et de rigueur, où là on est plus sur un concept de process et de système d'information. Je ne l'ai pas noté et ça manque au niveau de mon schéma. Donc on va arriver sur des gens, sur des profils en tout cas, et des choses extrêmement rigoureuses, carrées. C'est ce qui est indiqué, hein, processus, performance, compensation et bénéfices, et tout ce qui est gestion de la rémunération et de la masse salariale. Vous savez, dans la France, en fait, qu'on est le seul pays où la rémunération fait ça. Étonnant, hein. En Angleterre, ça va faire ça. Parce que vous savez pourquoi ? Les gens n'hésitent pas à changer de métier, se repositionner, repartir, etc. Et nous, en France, on cherche toujours, c'est Monsieur Plus. Ben oui, mais... Comment ? Ben oui, et après on s'étonne que des gens de plus de 45 ans ont du mal à retrouver du travail sur le marché, à retrouver quelquefois du marché, alors qu'ils sont hyper performants. Oui. Mais bon, en termes de rémunération, vous êtes employeur au niveau de la masse salariale, vous essayez de la maîtriser. Donc en fait, il y a tous ces impacts en fait à prendre en compte, et là on va avoir arrivé sur le marché du travail des gens vraiment spécialistes dans tout ce qui est frais de personnel, et on va se dire, ben, s'ils demandent plus, comment je mets une partie fixe et une partie variable ? Ou alors, comment je peux intégrer éventuellement des stock options ? Comment je peux arriver à une logique de rémunération globale qui va faire en sorte qu'il va y trouver toujours un niveau de vie et annuellement, une rémunération, ou en tout cas un niveau de rémunération qu'il souhaite. Satisfaisant, voilà, je suis très bon.
Sachez une chose, c'est que dans la rémunération, il y a deux choses. La partie fixe rémunère la compétence, la partie variable rémunère la performance.
La performance, voilà. Et c'est là que votre outil arrive en lien en disant, moi, je suis expert en mesure, je mesure la performance et par rapport à ça, je gère dans la rémunération. Donc c'est vrai que c'est des enjeux, à mon avis, fondamentaux pour les années à venir. Et là, on va arriver à aussi des gens très, très...
Très, très pointus.
Très, très pointus. Et il y en a qui sont déjà là, hein, en fait.
Co-skiller en ressources humaines.
J'ai vu un ingénieur embauché comme ingénieur réducteur de coûts. Et on lui a dit, mais en fait, si toi tu te licencies, ce sera déjà une réduction de coûts. une réduction de coûts non négligeable, parce qu'il avait demandé très cher et il avait été très bien embauché. Alors, représentant intermédiaire médiateur, bon, là on retrouve un peu les généralistes RH. En sachant qu'on va arriver sur plus des postes de médiation, c'est-à-dire plus des mini-conflits intégrés dans l'entreprise, où on va arriver un petit peu en pompier. Donc, tout ce qui est représentant également au niveau des représentants du personnel, donc voilà. Donc, c'est plus, vous voyez, des à-coups au quotidien et vraiment plutôt de la médiation, parce que ça va pas être évident et les chantiers de demain... Vont pas être évidents à mon avis.
On commence à avoir des formations de médiateurs qui se font en formation continue, qui sont des modules de formation, négociation, ça c'est juste dans la relation sociale. Ça existe déjà depuis quelques temps, mais j'ai vu apparaître, c'est chez. Je m'en reviendra. Des formations de médiateurs.
Alors moi j'y crois à fond. Et je pense qu'on aurait moins de dossiers prud'homo si déjà en amont on était là avec une formation médiateur. Personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, conduite du changement, là on est vraiment dans la gestion de projet. Ce que je vous ai présenté tout à l'heure, vous savez, dans le cercle. Donc là, c'est plus des missions, des interventions, mise en place d'un ERP, etc. Donc, d'une manière générale, conduite du changement. Et le business partner. Qui est plutôt dans une logique affaires et également ou stratégique d'entreprise. Je prends un exemple. Renault veut lancer une nouvelle voiture il va prendre sur sa ligne de la voiture X un RRH, et le RRH, il va en fait être dans la phase amont, préparer le lancement de la ligne voiture avec du recrutement, de l'adaptation, des descriptions de postes, des référentiels métiers. Il va être tout au long de la, en montée en puissance éventuellement de la ligne de fabrication avec des choses planifiées en termes de peut-être qualification du personnel, etc. Dans la ligne de stabilisation, il va être là également plus peut-être pour renforcer les outils et en termes d'adéquation. Et il va être là également dans la phase de déclin pour essayer de redéployer le personnel sur d'autres aspects, etc.
La personne qui va aller de l'avant-projet jusqu'au bouclage, la fermeture de la ligne de produit.
Voilà. Donc on va arriver à c'est un exemple, mais on va arriver à mon avis à des choses comme ça. Alors j'ai gardé le business partner, parce que c'est quand même assez à la mode, et puis ça c'est bien lancé, je trouve. Donc on l'associe, déjà il a un côté très opérationnel, il dépend en général effectivement du management intermédiaire et pas forcément d'un DRH haut placé, et il fait partie vraiment du comité, ou en tout cas du comité de décision. Hein. Donc en fait, on l'a fait évoluer, c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment pour le mettre en situation et faire en sorte qu'il ait une valeur ajoutée au quotidien, mais tout le long du projet. Donc ça peut être un généraliste, comme vous, demain, avec plutôt une logique projet, anticipation ou changement. Alors les RH dans les futures années, quelles sont les tendances et, que je vois en tout cas à titre personnel, je pense qu'il y a la poursuite de la mondialisation, donc l'économique. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on subit, ou en tout cas qu'on est confronté au quotidien, à tout point de vue, hein, tant au niveau des entreprises que des individus vous-même. Donc en fait, on a quand même les technologies qui évoluent. On a en fait une compétition qui va favoriser l'effort, hein, ça c'est clair. Et l'Europe, là-dedans, face à la mondialisation, on a des acquis sociaux qui, quelque part, sont parfois contraignants, sont sûrement, de toute façon, à mon avis, sont bien fondés, parce que le salarié, de toute façon, se doit d'être protégé. Et je pense que les représentants du personnel, enfin les syndicats, ont joué un excellent rôle. Néanmoins, la législation est quand même très contraignante et on a des gens qui sont plus développés que d'autres. Donc, ça, à mon avis, ça, là, on sent déjà, et on en parle beaucoup, hein, sur tout ce qui est économique et externalisation, c'est vraiment... Ça fait un petit peu peur. Ouais. Alors, sinon, l'éducation socioculturelle, là aussi, on a une qualification forte des jeunes, hein, il faut le savoir. Une dominance des besoins de sécurité et une segmentation sociale également avec un bon niveau de vie. Alors je pense qu'en fait on arrive quand même à des choses un petit peu parallèles où on va avoir effectivement vous savez, la France était connue pour avoir un niveau moyen, enfin il y avait pas mal de le secteur public est quand même extrêmement bien représenté, et on a, je dirais, un niveau quand même moyen de vie jusqu'à présent. Hein. Enfin,
on est toujours quand on prend les niveaux de vie européens, on est toujours dans la tranche moyenne, effectivement. Bon, un peu plus, on a monté depuis qu'on a intégré d'autres pays, mais avant qu'on soit à 25, on était dans la tranche moyenne.
Bon, il faut savoir que ça va vraisemblablement, au niveau des prospectives, socioculturel, se différencier ou en tout cas éclater un petit peu plus. C'est-à-dire en fait le côté moyen va tendre à la baisse, et donc on va arriver à avoir des gens avec un niveau quand même assez assez proche du SMIC.
Dégradation.
Voilà.
Dégradation.
Dégradation.
Possible. Moi j'ai un autre en complément de ça, parce que ça c'est tout à fait ça, mais en complément de ça, moi j'ai un moyen mnémotechnique pour tout ce qui est à étudier dans l'environnement, la peste. Quelque chose? Peste. politique, économique, sociale, technologique, environnementale. Et certains rajoutent le L, le légal. Voilà. Vous surveillez tout ça et vous aurez une vision très précise de ce qui peut se passer, au moins d'où peuvent venir les menaces et les opportunités demain. Effectivement, le politique, on le voit au quotidien aujourd'hui, hein, on est en plein dedans. L'économique, bah oui, l'Europe, l'intégration de pays qui sont à forte en développement, avec un développement exponentiel. Le sociologique, la démographie, le vieillissement de la population, le nombre de jeunes diplômés qui ne comblera pas le nombre de départs à la retraite, enfin, ainsi de suite. Le technologique, ben oui, ça évolue, on va de plus en plus vite. Regardez le cycle de vie de produits, télécom ou autres, qui sont à peine sortis, qui sont déjà périmés, qui a déjà le suivant, qui est déjà dans les lignes de production, enfin bon, ça va à une vitesse folle. Et puis derrière l'écologique, ben oui, toutes les réglementations écologiques qui vont influer sur la production. Regardez, on a essayé de refourguer notre Clémenceau à un pays qui était pas dans les mêmes normes que nous. Et puis voilà. Donc tout ça, ça influe. Et le légal, bah oui, parce qu'on vit encore, enfin ça c'est un avis personnel, on vit encore sur des acquis qui datent d'une période où c'était les Trente Glorieuses. Même ça a été fait avant, mais ça a bénéficié aux Trente Glorieuses. Et que maintenant, je pense qu'il y a un gros travail législatif à faire pour refondre. On a un truc qui est très contraignant par rapport à nos concurrents, effectivement, qui pénalise un peu les entreprises et les salariés d'ailleurs, dans leur développement et dans la compétitivité. Et bon, on va pas faire un débat politique.
Donc ça fait partie d'une Europe sociale très disparate. Hein. C'est vrai que l'Europe du Nord est extrêmement avancée en termes de parité. On ne parle pas là-bas d'égalité hommes-femmes, elle coule de source. Hein.
La formation des anciens,
le temps partagé,
choisi.
Côté Outre-Manche, il y a un libéralisme qui attire nos start-up à une heure ou à une heure et demie de Paris. En général, le niveau de création d'entreprise est nettement plus avancé que le nôtre. Bon, il faut le savoir aussi. Donc voilà, pas si évident que ça. Alors, quel avenir là-dedans? Je pense qu'en fait, les ressources humaines, l'appellation va changer. Ce sera la fonction homme et management, en fait. Hein? Donc on arrive sur toujours, quelque part, on avait le R et le H. Le H, on le garde, on le met en avant, et le management revient. Hein? On est vraiment dans une logique plutôt managériale, au même titre que nos opérationnels qui sont managers eux-mêmes. Donc en fait, on se met à leur niveau et on descend peut-être de notre estrade. Voilà.
Juste une info, notre DRH vient de changer de nom. Ça, c'est toujours DRH, mais c'est relations sociales.
Ah.
Des relations humaines, pardon.
Ah, des relations.
Des relations humaines. Ouais. Directeur des relations humaines. Non, pas des ressources. Des relations humaines.
Donc, bah, vous, là, pourquoi, en fait, c'est pour tout ce qu'on vous a dit précédemment, parce qu'on va pas se... Je préférerais l'échange à la redite. Je pense qu'il y a vraiment une évolution certaine, en tout cas, de cette fonction ressources humaines, hein, passionnante, mais exigeante.
Bravo, en tout cas, pour le départ. Hein.
Il y a peut-être des questions.
Mais c'est clair.
Combien parmi vous l'année prochaine vous allez dans RH? D'accord.
On aurait dû poser la question avant.
Ouais. Voir
et après.
Pour comparer, voir si on a bien vendu notre métier et notre motivation sur ce métier. Non, responsable mobilité, donc c'est une personne qui est en charge de faire de l'évaluation interne, un outil qui va être utile maintenant. La législation impose l'entretien professionnel. Toutes les entreprises doivent faire passer à leurs salariés, au maximum tous les 24 mois, un entretien professionnel. Cet entretien-là sera, à mon avis, bien utile ou dédié aux personnes, au moins les résultats de ces entretiens dépendront des personnes responsables de mobilité qui vont recueillir les attentes des salariés et pouvoir organiser, réfléchir aux mobilités internes. Donc changement de poste, évolution, changement de métier, de filière, enfin. Tout ça pour servir la stratégie. Oui. Oui, ben, je m'en expliquerai avec elle. Mais je vais pas dire du mal de Mme Chanaï, je ne sais pas, parce qu'elle est très professionnelle. Mais comparez, faites votre choix, étudiez. Voyez si rentrer sur une segmentation dans un poste ressources humaines dans une grande entreprise ou une entreprise avec plusieurs personnes en ressources humaines, si vous pouvez apprendre plus facilement votre métier que rentrer dans une PMI, PME, rattachée au directeur financier, voire au DG, si, ou au PDG s'il n'y a pas ces fonctions-là, et avoir tout à assumer. Voilà. Ça peut être formateur, mais c'est un risque.
C'est ce que Mme Chalaï disait, en fait, que si on commençait dans une grande entreprise, on serait spécialisé dans un poste, et que par contre, le chemin vers une petite entreprise ou une serait plus difficile parce qu'on se serait spécialisé dans un poste, en fait. C'est ça qu'elle disait.
Mais bon, les deux. Alors, c'est pas dit. Je pense qu'il va. Vraiment, il n'y a pas de schéma type, etc. Tout dépend de votre personnalité et de ce que vous pouvez apporter aussi en termes de compétences ou en termes d'aptitudes. Il y a aujourd'hui 4 orientations, vous voyez bien. Il y a le business partner, conduit du changement, où on demande vraiment des gens avec un énorme leadership et vraiment avec une aura, une force de conviction, de communication et puis une organisation de projet. Le management, qui est plus les postes généralistes qu'on connaît aujourd'hui et vers la médiation, où là on est plus sur des postes demandant de la coordination et des qualités de gestionnaire et tout ce qui est procédure, process SI. Je pense que le mieux, c'est de vous dire qu'est-ce que je veux faire demain. Est-ce que je suis plutôt dans ces 4 cases-là, entre guillemets, où est-ce que je pourrais mieux me positionner? Et ensuite, vous choisirez la structure, l'entité, PME, grand groupe, etc. Ça, je pense que c'est d'un second ordre. Et puis, il n'y a pas de schéma idéal. Ça dépend de vous, de ce que vous avez envie de faire et surtout de vos qualités, quoi, en fait. Parce qu'arriver dans un groupe en étant timoré, excusez-moi, ne coupant pas la parole éventuellement à votre collègue et vous mettant pas en avant, ça va être très dur, quoi. Alors dans une PME, là où on est dans une dominante plutôt humaine, etc., ça passera beaucoup plus. Parce que souvent, il y a côté assez, justement, pas paternaliste, mais en tout cas, au quotidien, une relation de confort et de proximité, voilà, qui
dans un grand groupe aussi, on parlait tout à l'heure, il y a aussi tout ce qui est en jeu de pouvoir. Ouais. Et il y a aussi, il ne faut pas trop déborder sur ce que fait l'autre, entre la formation, le recrutement. Par exemple, certains qui sont en poste depuis des années en RH, on arrive avec pas de nouvelles choses, ils sont un peu, comment dire, old school, quoi.
Fermé.
Ça existe aussi entre le RRH qui arrive, qui est nommé sur la création de poste, et puis à qui on dit, bah, tu vas prendre un petit peu du poste du responsable administratif financier ou responsable comptable, sur la partie où l'autre il veut pas lâcher son bout de gâteau. Enfin, ça, on est dans la relation humaine et ça existe à tous les niveaux. C'est pas une question de taille d'entreprise ou d'ancienneté. Dans l'ancienneté, vous avez aussi des anciennetés énormes dans des PMI, PME. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, profitez de vos stages pour voir ce que c'est. Faites-vous votre propre opinion par vous-même. C'est vous qui avez la réponse. Hein, en fonction de votre personnalité, de vos attentes et de votre motivation. Profitez des stages pour voir, je ne sais pas, vous en avez un bientôt, mais qui n'est pas forcément dans le domaine RH. Mais profitez-en pour aller rencontrer la personne en charge des ressources humaines dans l'entreprise dans laquelle vous faites votre stage. Échangez avec cette personne-là, qu'elle vous parle de son métier au quotidien, qu'est-ce que c'est. Et puis l'année prochaine, quand vous serez en stage, essayez de trouver une structure d'une autre taille, d'un autre secteur d'activité. Et puis à ce moment-là, vous aurez les éléments pour prendre votre décision. N'oubliez pas une chose, on est dans l'humain. Et il y a autant de réponses que d'individus. D'accord, le tout c'est de trouver la meilleure réponse à un instant T pour satisfaire. Et puis après, c'est qui? L'entreprise ou le salarié? Et dans les cas, pour un projet commun en tout cas.
Pas d'autres questions?
Alors moi j'avais une question, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, qui vous ont choqué ou qui vous ont dans ce que nous avons relaté ou qui ont fait que peut-être, tiens, vous posez la question, ce qu'on fait
Je
que vous représentiez les ressources humaines de cette manière-là. Par rapport à ce qu'on vous a peut-être dit ou appris.
Peut-être pas l'aspect système d'information. Enfin, c'est vrai que c'est peu associé, je trouve.
Mais... D'accord, vous ne l'aviez pas vu sous cet angle-là. Comment ? C'est plus au niveau informatique.
Tout ce qu'on peut rationaliser, en introduction, vous avez parlé de Taylor. Effectivement, tout ce qu'on peut rationaliser en termes de tâches répétitives, ça c'est, ouais, c'est intégré dans des logiciels, on essaie de le mettre. Et puis on se garde du temps pour l'humain. L'évaluation, la gestion de l'humain. Et tout ce qui est la partie comptable, faut la théoriser, il faut vraiment mettre ça dans un logiciel, un logiciel.
On vous laisse clôturer.
Bah pour conclure, déjà, merci à nos deux intervenants d'avoir d'une part accepté l'invitation et nous avoir éclairé sur ce vaste métier qui font souvent l'objet d'un certain nombre de clichés. Vous avez commencé par dire que c'était pas forcément que de la communication et du social. Ça se résout souvent à ça et on voit pas forcément la difficile conciliation qu'il peut y avoir entre les aspirations des dirigeants, l'avenir de l'entreprise et puis justement les aspirations des salariés qui voient des fois le RH comme leur digne représentant. Et puis sachez que nous espérons déjà que la conférence aura répondu à vos attentes. Si vous avez des questions complémentaires ou que vous voulez voir un compte rendu, sachez que notre site va rester ouvert, donc à la même adresse bien sûr, et qu'un compte rendu sera mis et qui continuera à être actualisé un certain temps. Et puis merci à vous d'être venu déjà.